Vous écoutez On lit pour vous.
Les petits battent les gros. En sous-titre, les aventures militaires de Washington et de Moscou sont un avertissement pour Pékin. Un texte de François Brousseau publié dans Le Devoir du 1er juin 2026. Au-delà de ces péripéties et des pirouettes de la Maison-Blanche, au-delà de la frustration d'un Donald Trump qui peine à trouver une porte de sortie, la guerre des États-Unis déclenchée il y a 3 mois contre l'Iran n'est que le nouvel exemple d'une longue série. Une série au cours de laquelle de grandes puissances s'élancent, sous les dubris et de certitude, vers une victoire facile, avant de s'enliser et de finalement chercher une issue qui soit la moins humiliante possible. Les grandes puissances peuvent perdre des guerres. C'est l'une des tendances majeures de la géopolitique et de la théorie militaire de la fin du 20e et du 21e siècle. Des guerres asymétriques contre des adversaires théoriquement bien plus faibles, mais où la supériorité militaire classique ne garantit plus le gain politique. La taille et la technologie supérieure, l'aviation écrasante et la maîtrise du ciel n'entraînent pas la reddition de l'ennemi ni le contrôle d'un territoire hostile. Drones, missiles et bombardements peuvent détruire des cibles stratégiques, mais ne suffisent pas à stabiliser un pays ni à imposer une nouvelle réalité au sol. C'était vrai par le passé. Ce furent les interventions au Vietnam en 1964, en Afghanistan en 2001, puis en Irak en 2003 pour les États-Unis. L'Afghanistan pour la défunte URSS, guerre des années 1980 qui a littéralement précipité sa chute comme État. C'est encore plus vrai aujourd'hui. La guerre impériale ratée de Moscou en Ukraine est une illustration éclatante à laquelle viennent s'ajouter les hoquets du gouvernement Trump face à un Iran qui pèse de 60 à 100 fois moins que les États-Unis, le PIB et budget militaire comparés. La prise de Kiev devait être l'affaire de quelques jours. Elle a dégénéré en un conflit dévastateur où la Russie a subi d'énormes pertes humaines et économiques, brisé le mythe de sa puissance militaire, dresser l'Occident contre elle et tremper la nation ukrainienne dans l'épreuve. Du point de vue de Moscou, une belle addition d'effets pervers. La chute du régime théocratique de Téhéran devait suivre rapidement une campagne intense de bombardements et d'assassinats sélectifs par les forces israélo-américaines, suivie d'une révolte populaire qui, pour toutes sortes de raisons, dont la force répressive intacte du régime, n'a jamais eu lieu. Aujourd'hui, le régime est renforcé par l'attaque extérieure et par l'activation d'un atout maître, resté jusque-là virtuel, Hormuz. Il y a aussi la colère des pays du Golfe contre leurs supposés protecteurs. Du point de vue de Washington, une belle addition d'effets pervers. Au-delà de leur singularité, les guerres d'Iran et d'Ukraine font voir l'évolution générale de la guerre au 21e siècle, où les drones, la guerre électronique et l'intelligence artificielle rendent obsolètes les mammouths de jadis. Depuis quelque temps, on lit et entend que les dirigeants chinois se frottent les mains devant les difficultés américaines à l'Iran, dont la Chine tirerait forcément un avantage. Il y a du vrai dans ces considérations. En matière stratégique, la Chine peut y trouver son compte du fait de son influence régionale accrue, alliance tacite avec l'Iran qui résiste notamment grâce à de discrètes fournitures chinoises. Des considérations radicales des États-Unis parmi ses « clients » entre guillemets du Golfe. Il y a aussi ce président qui n'a pas de parole et peut, en une seconde, trahir son allié d'hier, voire le possible retournement de Washington sur les livraisons d'armes à Taïwan. Mais les difficultés des États-Unis face à l'Iran et celles de la Russie en Ukraine, malgré la grande différence entre les deux situations, une dictature militaro-religieuse renforcée par l'agression extérieure, une démocratie fragile attaquée par un empire qui nie son existence, peuvent receler un tout autre type de leçons et d'avertissements pour Pékin. À savoir que le petit, attaqué par le gros, à l'ère de la guerre asymétrique et de la perte de poids des atouts traditionnels que sont une infanterie massive, une marine et une chasse aérienne classique, a ses chances de résister. Chaque cas est particulier. La dissuasion, ou à défaut la défense militaire effective s'il y a attaque, prend toujours des formes spécifiques modelées par la politique, la démographie, l'histoire et la géographie. Taïwan n'a pas la « profondeur stratégique », entre guillemets, entre parenthèses, arrière-pays étendu, fin de la parenthèse, de l'Ukraine, ni l'avantage géographique prodigieux que confère à l'Iran le contrôle du détroit d'Hormuz, même si le détroit de Formose a aussi une grande valeur stratégique, mais au profit de qui? En Ukraine, en 2022, la mobilisation populaire pour défendre la patrie fut extraordinaire et tout a changé. Ce facteur ne joue pas autant en Iran, où la majorité déteste le régime tout en restant nationaliste. L'éventuelle détermination au combat des Taïwanais, même très attachés à leur identité distincte, à leur liberté et à leur indépendance de facto, est un point d'interrogation. Quant à la nouvelle « guerre hybride », entre guillemets, Pékin aussi sait y faire. Mais il y a des raisons pour lesquelles Xi Jinping remet toujours à plus tard une éventuelle agression militaire contre l'île qui refuse son intégration forcée à l'Empire chinois. L'île de Taïwan n'est pas un nain militaire. Elle a des alliances informelles, États-Unis-Europe, et une géographie singulièrement escarpée, propice à la résistance. L'armée chinoise, malgré le deuxième budget militaire du monde, est en proie à des purges continuelles et n'a pas connu le combat depuis plus de 40 ans. Une guerre asymétrique efficace reste possible. Washington, Moscou et Pékin doivent le savoir. Fin de ce billet de François Brousseau titré « Les petits battent les gros », publié dans Le Devoir du 1er juin 2026.
Cinq idées pour bouger en douceur, un texte de Anne-Marie Tremblay, paru le 17 février 2026 dans Virage. On le sait, s'activer est bénéfique à tout âge. Or, cela peut devenir plus difficile en vieillissant, alors qu'apparaissent certains ennuis de santé, douleurs ou maladies chroniques. La clé pour demeurer actif? Adapter le mouvement. L'important, c'est de bouger, mais en choisissant des activités qui respectent sa condition physique, rappelle Marc-Antoine Pépin, président de la Fédération des kinésiologues du Québec. Tour d'horizon de cinq activités qui ont fait leur preuve et qui permettent de bouger en douceur. 1. La marche. Simple, accessible et peu exigeante pour les articulations, la marche reste une valeur sûre. Son principal avantage, elle s'adapte facilement aux besoins de tout le monde. Terrain plat ou montagneux, rythme lent ou soutenu, courte promenade ou sortie répartie sur la journée, on peut ajuster nos efforts selon nos capacités, mentionne le kinésiologue. Bien sûr, on évite de marcher si le site est glacé. Toutefois, plusieurs options intéressantes existent, comme les clubs de marche qui se rendent dans les centres commerciaux. En plus d'améliorer le cardio, marcher favorise la circulation sanguine et contribue au maintien, voire au renforcement de la musculature des jambes, ce qui peut être bénéfique pour les personnes vivant avec des problèmes articulaires, par exemple. Pour limiter l'inconfort, mieux vaut privilégier de courtes séances répétées, par exemple 3 fois 10 minutes, plutôt qu'une longue sortie d'un coup. 2. Le yoga. Pas besoin d'être capable de se tenir sur la tête pour faire du yoga. Généralement, les postures s'enchaînent lentement et en douceur. C'est une activité qu'il est facile d'adapter en fonction de sa propre condition. Un bon enseignant proposera toujours des variantes si on a des problèmes d'équilibre ou des douleurs au dos, donne en exemple Marc-Antoine Pépin. Sans impact, le yoga convient bien aux personnes souffrant de douleurs articulaires ou ressentant des raideurs. Dans tous les cas, il faut respecter ces douleurs pendant les mouvements. Mais c'est un exercice intéressant puisqu'il permet de travailler à la fois la flexibilité, l'équilibre et la force. Ce faisant, on est plus mobile au quotidien. Des versions sur chaise ou spécialement conçues pour les aînés existent aussi. 3. Le tai chi. Issu des arts martiaux chinois, le tai chi repose sur des mouvements lents et fluides. Cette pratique est reconnue pour améliorer l'équilibre, la coordination et la force musculaire. Il est d'ailleurs souvent recommandé pour prévenir les chutes et améliorer la stabilité, un enjeu important en vieillissant. Parce qu'il ne comporte ni saut ni impact, le tai chi peut convenir à des personnes ayant des douleurs articulaires ou une fragilité musculaire. Il est aussi parfois recommandé à des personnes atteintes de la maladie de Parkinson, notamment pour améliorer leur équilibre. 4. L'entraînement en salle. Contrairement à sa réputation, le gym n'est pas réservé aux jeunes tout en muscles. L'avantage de l'entraînement en salle, c'est qu'il est facilement adaptable. On peut donc augmenter progressivement les charges, ce qui permet de gagner en force tranquillement, sans trop de douleurs ou de courbatures, explique le kinésiologue. Il est donc possible de suivre des séances personnalisées en fonction de ses besoins. Parce qu'on veut améliorer son endurance à la marche, être capable de porter ses sacs d'épicerie ou se renforcer après une blessure, détaille-t-il. Pour cela, il vaut mieux se tourner vers quelqu'un qui possède une expertise, comme un ou une kinésiologue, qui pourrait bâtir un programme sur mesure en fonction de sa santé et de ses objectifs. En bonus, le gym est un bon endroit pour socialiser, ajoute Marc-Antoine Pépin. 5. La danse. Zumba, danse en ligne, cha-cha-cha, peu importe le style, se déhancher sur la piste de danse est bénéfique pour la santé physique et cognitive. En effet, la mémoire, tout comme la coordination, est sollicitée pour se rappeler les chorégraphies. Pour les personnes qui apprécient ce type d'exercice, c'est une excellente façon de bouger en douceur, note-t-il. Bien entendu, cela dépend de l'intensité, mais ce n'est pas aussi intense que la course. Sans saut ni choc excessif, elle peut être tout à fait compatible avec des problèmes articulaires, à condition de respecter son propre tempo. Faire preuve de prudence. Quelle que soit l'activité choisie, un principe demeure, écouter son corps et, en présence d'une condition de santé particulière, valider ses choix auprès d'un professionnel de la santé, rappelle le kinésiologue. Toutefois, l'activité physique est vraiment un des meilleurs outils non pharmacologiques dans une très grande majorité de conditions de santé. Que ce soit pour de la marche, du yoga, du tai chi, de l'entraînement ou de la danse, la FADOC propose des clubs et des activités. Contactez votre regroupement régional ou visitez le fadoc.ca. C'était 5 idées pour bouger en douceur, un texte de Anne-Marie Tremblay, paru le 17 février 2026 dans Virage.
La grande histoire d'un petit biscuit chinois. Un texte de Maxime Bergeron, paru le 5 juin 2026 dans la presse. Il y a 6 mois à peine, 100 000 biscuits sortaient chaque semaine de l'usine Nui Wing. Du matin au soir, en plein cœur du quartier chinois, une vingtaine d'employés malaxaient de gros blocs de pâte pour les transformer en fines nouilles. Ils emballaient des milliers de sachets de sauce soya avec le célèbre logo rouge de l'entreprise ou encore des paquets de pâtes à egg rolls. Ils expédiaient partout dans l'Est canadien leurs milliers de petits biscuits chinois au goût vanillé, dotés d'une caractéristique toute montréalaise, des messages d'humeur bilingues. Puis, la vieille machinerie s'est tue. La dernière usine en activité dans le quartier chinois a fermé ses portes en décembre, après plus de 125 ans. Les lignes de production sont désertes. Il ne reste qu'un petit bureau occupé par Garnet Lee, petit-fils des fondateurs et dernier patron de l'usine avec son frère Gilbert. Son ultime lien physique avec cet immeuble où il a commencé à emballer des rouleaux aux œufs à 8 ans. Comme s'il refusait de clore ce chapitre pour de bon. Cela se comprend. L'annonce de la fermeture de New Wing a déclenché un raz-de-marée médiatique au cours des 6 derniers mois. D'anciens clients demandent d'être pris en photo avec les frères Wing. Ils signent des autographes sur des paquets de nouilles séchées. L'intérêt ne s'essouffle pas. Garnett, 68 ans, me dit être incroyablement surpris par cette vague d'amour, surpris qu'on le reconnaisse tout court. Tout cela est inattendu. Nous n'avions jamais imaginé avoir ce type d'impact. Nous, notre famille, nous sommes simplement des travailleurs acharnés. Le quartier chinois, Wing, c'était notre maison. Nous y avons probablement passé plus de la moitié de notre vie à travailler. Travailler. La vague de nostalgie dépasse de loin le goût unique des biscuits Wing, fruit d'une recette développée par sa mère et sa grand-mère et jalousement gardée au fil des décennies. L'histoire de l'entreprise est liée de près à une série de moments charnières, bons et mauvais, des 125 dernières années. Elle a touché des Montréalais de plusieurs générations. L'arrière-grand-père Lee est arrivé au Canada avec la première vague d'immigrants chinois à la fin du 19e siècle pour construire les chemins de fer du Canadien Pacifique. Il est devenu actionnaire d'une société d'import-export de Montréal en 1905. Le commerce, à l'époque, était l'un des seuls moyens de subsistance pour les Sino-Canadiens largement ostracisés. La Seconde Guerre mondiale a marqué un tournant. L'importation de marchandises d'Asie a été bloquée. C'est là que Wing Noodles, le nom de l'entreprise avant sa francisation, est né, dans le quartier chinois. Malgré sa production importante, l'usine est toujours restée modeste, avec 35 employés à son apogée. Format familial. Les produits se sont diversifiés au fil des décennies avec l'introduction de pâtes italiennes, cachères ou japonaises. Et peu à peu, l'environnement est devenu de plus en plus hostile pour la tenue d'activités industrielles dans le quartier chinois, un secteur dense, enclavé entre le centre-ville et le Vieux-Montréal. L'autoroute Ville-Marie a été construite, le palais des congrès aussi. Les trottoirs ont été élargis, les rues ont rapetissé, des places de stationnement ont disparu. Tout ça s'est accumulé au point qu'il nous est devenu impossible d'accueillir de gros camions de livraison, m'a résumé Garnett. Les frères Lee ont cherché à déménager leurs activités dans un secteur plus ouvert aux industries comme la leur. Ils ont trouvé un local intéressant à La Salle, dans l'ouest de l'île, mais l'arrondissement a refusé de leur délivrer un permis. Le cousin, qui dirigeait l'entreprise avec les frères Lee, Georges, a pris sa retraite en 2023. Gilbert attendait une opération aux deux genoux qui l'aurait mis hors service pendant 2 ans. Le moment a été venu d'arrêter. La génération suivante, celle de nos enfants, est bien installée dans la vie, souligne Garnett. Ils sont bien éduqués, ils ont de bons emplois et ils n'avaient aucun intérêt pour l'entreprise. Ils ne voulaient pas travailler 80 à 100 heures par semaine. Ils veulent profiter de la vie, vous savez, ils veulent voyager. et je ne les blâme pas du tout. Les choses se sont bousculées. Nui Wing a mis en vente ces deux immeubles massifs du quartier chinois. Un promoteur les a rachetés pour environ 10 millions dans le but d'y ériger une tour de condo. Levé de boucliers, le noyau historique du quartier chinois aurait été massacré. Réaction? Québec lui a reconnu un statut patrimonial, ce qui est venu limiter l'éventail des projets potentiels. Pendant que tous ces développements se succédaient, la pandémie a fait des ravages dans le secteur. L'itinérance, la consommation de drogue et la criminalité ont explosé. Les frères Lee commençaient à préparer la fermeture de Nui Wing il y a 5 ans, quand un voisin et ami de la famille, Jean-Philippe Riopel, qui est aussi muséologue, leur a demandé ce qu'ils feraient de toutes les boîtes emmagasinées un peu partout dans leurs immeubles. Leur destin le plus probable était le bac à déchets. Avec une équipe de bénévoles et d'étudiants en muséologie, il a trié des milliers de documents et d'objets accumulés depuis 125 ans. Plus de 8000 artefacts ont été récupérés puis cédés au MEM, le Centre des mémoires montréalaises. La fondation JIA, vouée à la protection du patrimoine dans le quartier chinois, inaugurera ce vendredi une exposition qui donne un aperçu de l'ampleur de la collection. Ce qui a été sauvegardé de cette usine constitue facilement la plus importante collection d'artefacts canado-chinois du pays, réunie en un seul ensemble et demeurée intacte, dit Karen Cho, commissaire d'exposition de la Fondation JIA. Cette expo est toute petite. Ses promoteurs espèrent qu'elle servira de bougie d'allumage pour transformer les environs de l'ancienne usine Wing, assez glauque en ce moment. Jessica Chen, directrice générale de la Fondation JIA, rêve d'un hub culturel renouvelé pour le quartier chinois. Le secteur en aura bien besoin. Un centre de la petite enfance voisin vient tout juste de déménager en raison du climat d'insécurité. Le seul projet confirmé pour l'instant dans le quadrilatère est un complexe de logements sociaux de la mission Oldbury destiné aux ex-sans-abri de plus de 50 ans. Le quartier est rempli de potentiel, avec sa localisation à 2 pas d'un métro, mais il a encore toute une pente à remonter. C'était « La grande histoire d'un petit biscuit chinois », un texte de Maxime Bergeron, paru le 5 juin 2026 dans La Presse.
Chez les personnes de plus de 65 ans, le thé protégerait mieux les os que le café, selon une étude australienne de grande ampleur. Un texte d'Adrien Barre-Hillé, paru le 20 mai 2026 dans Science et Vie. Longtemps suspecté d'affaiblir les os, le café n'aurait pas le même effet selon la dose. Une vaste étude menée sur près de 10 000 femmes âgées suggère que le thé pourrait, lui, accompagner plus favorablement le vieillissement du squelette. Le squelette féminin s'effrite avec l'âge, au point qu'une simple chute fissure parfois le col du fémur. À Adélaïde, l'Université Flinders a passé au crible les habitudes matinales de patientes ménopausées au long cours. Le thé contre l'ostéoporose progresse, là où l'abus de café marque un recul. Une décennie de tasses passées au scanner. Près de 10 000 femmes de plus de 65 ans ont rempli des questionnaires sur leur consommation de boissons chaudes. La grande cohorte américaine Study of Osteoporotic Fractures les a suivies pendant 10 ans. À chaque visite, leur densité minérale osseuse était mesurée par absorptiométrie biphotonique au niveau de la hanche et du col du fémur. Ces deux zones encaissent les fractures les plus graves du grand âge. La technique, une radiographie au rayon X de très faible dose, livre une mesure répétée du capital osseux. Sur la décennie, les buveuses de thé affichent une densité de hanche légèrement supérieure aux abstinences. L'écart reste modeste, mais ressort comme statistiquement significatif. Près d'une femme sur trois, après 50 ans, souffre d'ostéoporose. La fragilité osseuse alimente des millions de fractures dans le monde. Quelques pourcents de densité gagnée se traduisent à grande échelle par des milliers de hanches préservées. Selon les résultats qui viennent de paraître dans la revue Nutrients, aucune marque ni format de thé n'a été distingué dans les questionnaires. 5 cafés par jour, le seuil où l'os décline. Le café, lui, raconte une histoire plus contrastée. 2 à 3 tasses par jour ne pèsent pas sur la solidité osseuse, voire apportent des polyphénols utiles. Au-delà de 5 tasses, en revanche, la densité minérale baisse au niveau de la hanche, signe que la caféine grignote l'absorption du calcium dans l'intestin et accélère son élimination par les reins. Un facteur amplifie le phénomène, l'alcool. Chez les femmes ayant beaucoup bu sur leur vie, n'importe quelle dose de café entraîne une perte fémorale. Caféine et éthanol combinés semblent verrouiller l'absorption du calcium dans le squelette. Pour Nwu Liu, de petites variations de densité, répétées à grande échelle, signifient moins de fractures par génération. Ce que le thé contre l'ostéoporose doit aux catéchines. Les feuilles infusées concentrent des polyphénols qui stimuleraient la formation osseuse. Elles ralentiraient aussi la destruction des os par les ostéoclastes, ces cellules qui rongent le squelette en permanence. Ces molécules, des catéchines, sont particulièrement abondantes dans le thé noir, oxydé pour donner des théaflavines. L'effet protecteur ressort surtout chez les femmes en surpoids, dont l'os encaisse déjà plus de contraintes mécaniques. La différence avec les abstinentes apparaît même après ajustement sur l'apport en calcium et l'exercice physique. Côté caféine, l'interférence avec le calcium reste faible. Un trait de lait dans la tasse l'absorbe en grande partie. Les auteurs prennent leur distance avec un message simpliste. Leurs résultats ne justifient pas d'abandonner le café ni d'avaler du thé par litre. Une tasse quotidienne pèse simplement en faveur d'un fémur plus dense après 65 ans. Calcium et vitamine D restent les piliers de la prévention osseuse. L'équipe de Flinders prévoit d'étendre l'analyse aux hommes âgés dont le squelette réagit différemment aux mêmes molécules. C'était « Chez les personnes de plus de 65 ans, le thé protégerait mieux les os que le café », selon une étude australienne de grande ampleur. Un texte d'Adrien Barre-Hillier, paru le 20 mai 2026 dans Science et Vie.